Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
31e colloque international de l'Alliance française. Sous le titre « Géostratégie pour le français », s'est tenu le 31e colloque international de l'Alliance française du 27 au 29 janvier 2009 au Théâtre de l'Alliance française à Paris. La Fondation Alliance française propose, dans le cadre du rendez-vous annuel de son réseau, une réflexion autour du rôle des langues dans les enjeux diplomatiques, économiques ou culturels. D'éminents spécialistes y ont apporté leurs analyses, tels que Eric Orsena de l'Académie française, Hubert Védrine ou Dominique Volton. D'autres intervenants prestigieux se sont adressés aux participants, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, Valéry Giscard d'Estaing de l'Académie française ou Jacques Attali. Ce colloque se voulait un observatoire des évolutions du réseau des 1040 alliances françaises dans le monde. Sur les 5 continents, le réseau est administré par 8000 membres bénévoles, des personnalités locales, et compte plus de 12 000 salariés. La progression des étudiants français a atteint en 2008 près de 3% pour accueillir près de 500 000 étudiants en apprentissage du français. Cet excellent bilan tient en grande partie à l'originalité du concept. Les alliances françaises sont de droit local. Cette formule leur permet une grande souplesse de gestion autant qu'un réel ancrage local. Bien que soutenue en partie par l'État qui pourvoit près de 300 postes de détachés dans les alliances, elles subissent néanmoins des diminutions sensibles dans le soutien public. Et en développant des collaborations avec des partenaires privés, des représentations de groupes français ou des entreprises locales, les alliances françaises réussissent à attirer plus de 6 millions de personnes par an pour assister aux événements culturels organisés sur place. Et c'est dans ce contexte qu'a été créée en juillet 2007 la Fondation Alliance française, nœud central parisien de ce réseau international. Son rôle est de développer et de coordonner l'ensemble du réseau, mais aussi d'aider au financement de projets pilotés par les alliances. Tous ces thèmes furent abordés durant ce 31e colloque international à Paris, devant quelques 500 participants, présidents, directeurs et délégués des alliances françaises venus du monde entier. À l'ouverture, se sont prononcés le maire de Paris, Bertrand Delanoë, le président de l'Alliance française, Jean-Pierre Delaunoy, et le secrétaire général, Jean-Claude Jacques. Quelques points forts que l'on peut souligner dans leur communication. Bertrand Delanoë a annoncé une nouvelle convention qui sera signée entre la ville de Paris et la Fondation Alliance française en vue d'une intense coopération culturelle. Jean-Pierre Delaunoy et Jean-Claude Jacques ont de leur côté accentué la valeur culture comme refuge en ce temps de crise des repères. Et ils ont présenté le rapport de recensement de 2007 qui constate une progression notable d'activité d'une moyenne de 4% dans le monde selon les différents pays. Ce succès jamais démenti que rencontre l'Alliance française depuis sa création il y a 125 ans est certainement dû à une « alliance attitude », comme l'a évoqué Jean-Claude Jacques, une sorte d'équilibre entre le cœur et la gestion. On ne résiste pas à l'Alliance française. Cette célèbre formule était déjà lancée par le général de Gaulle à l'occasion du 60e anniversaire en 1943. La mission et les actions de l'Alliance française s'inscrivent bien sûr dans la politique culturelle extérieure de la France. C'était précisément le sujet de la communication de Philippe Étienne, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et européennes, qui présentait la réforme de la politique culturelle extérieure de la France. Le président Jean-Pierre Delaunoy accueille Philippe Étienne.
Monsieur Philippe Étienne, d'ailleurs, est chez lui, ici, véritablement. Chacun le connaît, donc je ne vais pas m'étendre dans de longues présentations, mais je voulais simplement dire que c'est très important, ce sujet de la réforme du ministère des Affaires étrangères, parce qu'on en parle déjà depuis longtemps. Donc il va nous dire où l'on en est, Vous savez que Philippe Étienne joue un rôle essentiel auprès du ministre des Affaires étrangères, et le terme n'est pas trop fort. Je voulais dire aussi, très simplement, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de connaître Philippe Étienne quand il était ambassadeur à Bruxelles, et qu'il y a laissé un merveilleux souvenir. De même, d'ailleurs, qu'après son mandat, son poste à Bucarest, où qu'il aille, Philippe Étienne laisse toujours de bons souvenirs. Philippe Étienne, vous le connaissez tous, je le répète, il est chez lui et je lui passe la parole.
Merci, Monsieur le Président de la Fondation Alliance Française, cher Jean-Pierre. Moi, c'est vrai, j'ai de très très bons souvenirs, en tout cas de chacune de mes interventions ici, puisque dans mes fonctions précédentes, fonction qu'occupe actuellement brillamment Anne Guézot-Secret, j'ai eu l'occasion de venir et le plaisir de venir vous rencontrer. Alors, ce n'est pas habituel pour le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et européennes, lequel ministre va vous recevoir ce soir au Quai d'Orsay, d'intervenir, je dirais, indépendamment de son ministre ou à d'autres moments, mais c'est aussi en fonction, c'est vrai, des missions qui m'ont été confiées précédemment. Merci, Monsieur le Président, de les avoir rappelées. Que j'ai ce grand honneur, et je le pense sincèrement, car je sais ce que vous représentez, et ce bonheur aussi de venir devant vous. Alors, puisqu'il s'agit surtout de dialoguer avec vous, je me contenterai de quelques mots d'introduction. Et d'abord, je voudrais vous redire toute l'importance que le ministère des Affaires étrangères et européennes accorde à l'Alliance française dans sa nouvelle organisation qui montre son dynamisme à la Fondation Alliance française de Paris, mais aussi à toutes les alliances françaises dans le monde entier, la confiance que nous avons dans nos alliances, notre admiration pour leur dynamisme et pour toute votre action. Vous avez invité d'éminents spécialistes à discuter pendant ce colloque des stratégies pour la promotion du français dans le monde, et je voudrais revenir à cette occasion sur certaines des priorités de notre politique culturelle extérieure. À l'époque, au moment où on parle, ce n'est pas la première, ni peut-être la dernière, mais on parle de sa réforme, en effet. Mais je crois qu'il est important de ne pas perdre de vue le fond et les priorités de notre politique. Tout l'enjeu, vous le connaissez beaucoup mieux que moi, tient en deux chiffres. La langue française est aujourd'hui, avec 200 millions de francophones, la 9e langue la plus parlée dans le monde, derrière l'anglais, le mandarin, l'hindi, l'espagnol, l'arabe ou le portugais. Mais c'est aussi la 2e langue la plus étudiée dans le monde, par près de 85 millions de personnes. Partant de ce constat, nous avons ensemble avec vous dressé un certain nombre de priorités. Une de nos grandes priorités, c'est la promotion du plurilinguisme. C'est notamment en Europe essayer de généraliser l'apprentissage de deux langues étrangères dans nos systèmes éducatifs au sein des pays de l'Union européenne et promouvoir l'usage du français dans les institutions européennes en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie qui développe avec nous un programme de formation linguistique pour des milliers de fonctionnaires, de diplomates, de journalistes dans les 27 États membres. Et je voudrais ici souligner, cher Jean-Pierre, le rôle primordial dans la mise en œuvre de ce programme d'une organisation que vous connaissez bien, qui est l'Alliance française de Bruxelles. Deuxième priorité sur laquelle je voudrais revenir un moment, la diffusion de la langue française comme contribution à l'effort de solidarité à l'égard des pays en développement et les pays du Sud. Là encore, le travail des alliances françaises est extrêmement précieux. Il accompagne la politique de développement de ces pays qui sont nos partenaires privilégiés. Je pense au soutien que nous apportons ainsi ensemble au développement des systèmes d'éducation, y compris d'éducation primaire en Afrique. Par exemple, l'Alliance française en République démocratique du Congo, pays qui pourrait devenir le plus grand pays francophone du monde. Mais permettez-moi d'avoir un mot aujourd'hui pour les alliances françaises de Madagascar. À l'heure où ce pays traverse une très grave crise, je voudrais penser aux alliances françaises de Toulear, de Majunga, de Tamatave et d'autres qui sont fermées ces jours-ci. Mais nous pensons en cette heure à nos collègues à Madagascar, comme nous pensons d'ailleurs, puisque je vous parle depuis le ministère des Affaires étrangères et européennes, à tous les pays en crise ou en difficulté, parce que notre présence à travers les alliances françaises, mais aussi à travers nos centres culturels, est souvent le symbole le plus fort de notre solidarité. dans ces moments de difficulté. Et puis, un troisième aspect, une troisième priorité de notre politique de promotion du français que nous menons avec vous et que nous sommes fiers de mener avec vous, c'est la promotion du français auprès de ce qu'on appelle, c'est un peu prétentieux, c'est pas non plus forcément très démocratique, mais ça a sens, les élites étrangères, et en particulier les étudiants, les artistes, dans les pays qui ne sont pas ceux de l'Union européenne, mais qui sont les grands pays qui émergent dans le nouveau monde que nous voyons se bâtir en ce 21e siècle. Et ce sont ces établissements culturels français et nos alliances françaises qui jouent désormais un rôle primordial pour attirer de nouveaux publics prescripteurs et influents vers la langue française. Je voudrais ici parler par exemple du Brésil, pays où j'ai eu l'occasion et l'honneur de visiter des alliances françaises il y a 2 ans. Un pays comme la Chine, bien sûr, un pays comme la Russie, que je connais bien, où j'ai été en poste, mais aussi les nouvelles alliances françaises qui apparaissent dans le monde, là où de nouveaux défis existent pour attirer de nouveaux publics vers la langue française. 3 exemples, 3 priorités, mais il y en aurait d'autres que vous allez aborder. Alors pour mieux mettre en œuvre ces priorités, et malgré un contexte qui est difficile sur le plan économique, financier et budgétaire et que vous connaissez, le ministère des Affaires étrangères européennes, c'est vrai, vous l'avez dit, Monsieur le Président, a engagé une réflexion approfondie sur ses missions. Nous avons le ministre Bernard Kouchner a confié une mission de réflexion à Alain Juppé et Louis Schweitzer qui ont présenté un livre blanc. Et dans le domaine de la politique, dans les domaines couverts par l'actuelle Direction générale de la coopération internationale et de développement, cette réforme se traduira et se traduit ces jours-ci, puisque cela accompagne le déménagement de nos locaux dans de nouveaux locaux que nous vous invitons à visiter. Rue de la Convention. Je ne sais pas ce que mes collègues ici présents qui s'y établissent en diront, mais c'est un beau bâtiment, en tout cas, c'est symbolique, c'est une coïncidence, mais c'est en même temps que nous changeons l'organisation du ministère, avec la création d'une nouvelle direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. Je crois que chaque mot compte dans ce titre, notamment le mot partenariat, qui, sur le plan de l'organisation du ministère, veut apporter une réponse aux enjeux globaux, c'est-à-dire à la manière dont la diplomatie française peut traiter ces enjeux. Le ministre, il vous le dira tout à l'heure, je pense, veut accorder dans cette nouvelle organisation une place particulière et éminente à la culture et donc aussi à la langue française. Et nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines de présenter plus précisément cette organisation en matière culturelle. Alors les alliances françaises, dans ce contexte, ont évidemment un rôle essentiel à jouer. Nous sommes conscients, je le disais au début, de leur dynamisme. Par dynamisme, là où cela est possible, bien sûr, nous entendons en particulier, mais pas seulement, bien sûr, la recherche active et réussie de financements qui permettent d'élargir les programmes, mais aussi, en fait, qui accompagnent de nouveaux partenariats avec des acteurs locaux. Je sais qu'au niveau mondial, la Fondation Alliance Française de Paris s'y emploie également avec beaucoup d'efficacité, mais aux États-Unis, par exemple, ou ailleurs, cette recherche est très active et, je le disais, très réussie. Je voudrais, tout en remerciant le président, les membres du conseil d'administration de la nouvelle fondation de ce dynamisme, qui se voit aussi dans les actions. Je crois que vous avez notamment créé un remarquable portail numérique. Tout spécialement, vous remercier les alliances françaises partout dans le monde d'avoir accepté d'assurer leur mission historique d'enseignement de la langue et de promotion de la culture française et du dialogue entre les cultures dans ce nouvel esprit qui permet l'élargissement des missions. Je parlais du Brésil tout à l'heure. Je me souviens avoir vu, et je sais que ce n'est pas le cas seulement de ce pays, combien les alliances françaises ont, par exemple, accepté de relever avec tout notre réseau le défi de ce qu'on appelle les espaces Campus France, c'est-à-dire d'installer des espaces Campus France en leur sein pour promouvoir les études supérieures en France. Je crois que c'est inséparable aujourd'hui, dans un monde très compétitif, de la promotion de la langue et de la culture française. Ces nouvelles missions de service public qui pourront être confiées à l'avenir aux alliances françaises, sont évidemment rendant effectivement encore plus importante la question des moyens. Alors dans le contexte que je rappelais où les budgets publics n'augmentent pas forcément beaucoup, en fait le budget de la coopération française augmente légèrement en 2009 par rapport à 2008, mais doit financer des contributions notamment multilatérales qui elles augmentent beaucoup. Notamment le Fonds européen de développement qui mobilise de 700 à 800 millions d'euros, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 300 millions d'euros. Et puis, il y a aussi nos lycées français à l'étranger, dont nous sommes très fiers, mais dont le budget est très important, près de 500 millions d'euros l'année prochaine. Tout ceci conduit, c'est vrai, à une baisse des budgets consacrés aux coopérations bilatérales. Donc, il a fallu faire des choix, puisque le budget global augmente légèrement, la partie multilatérale et la partie lycée augmentent beaucoup, donc le reste diminue. Et dans ce reste qui diminue, il y a des parties que nous avons voulu préserver. Et ces parties-là, c'est notamment les alliances françaises. Donc, c'est un choix politique dont nous sommes fiers. Alors, préserver, cela veut dire quoi concrètement? D'abord, cela veut dire concrètement continuer à développer votre réseau, notre réseau. Je crois, par exemple, qu'en Chine, on arrive à une taille de réseau tout à fait remarquable avec l'implantation de nouveaux centres cette année à Hangzhou et Chongqing, par exemple. Mais cela veut dire, évidemment, vous donner des moyens suffisants, donc le maintien des moyens hors immobilier et un budget total, je crois, de près de 42-43 millions d'euros, dont 30 pour les postes, 335 postes d'agents français expatriés. Sur ces 335 postes, 99 volontaires internationaux, ce qui représente 44% donc du coût total des personnels affectés par la coopération française, la promotion de la culture et de la langue française à l'étranger. Donc vous voyez, une contribution très importante et qui, globalement, dans le contexte que je vous disais, traduit un effort constant, un effort qui ne baisse pas. Le ministère souhaite aussi continuer comme priorité à soutenir la professionnalisation du réseau des alliances françaises et donc le programme mis en place par l'Alliance française de Paris avec le renouvellement en 2009 du soutien consacré par notre ministère à environ 300 000 euros à cette politique de professionnalisation qui accompagne le développement des alliances et la modernisation des alliances partout dans le monde. Voilà, je m'arrêterai là pour vous dire que ce soutien... Pour nous, c'est un soutien mutuel. Ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement les moyens que nous essayons de confier au réseau mondial des alliances françaises et à sa nouvelle fondation. C'est ce que vous nous apportez partout dans le monde. La belle mission qui est la nôtre, mais que vous assumez, je dirais, dans une philosophie admirable du dialogue et de la volonté de dialogue, c'est quelque chose qui, pour nous, est le trésor le plus précieux. Et donc, je voulais très chaleureusement saluer ici tous les membres bénévoles des comités qui sont venus, comme chaque année, comme en début de chaque année, à ce colloque, qui sont, je crois, le réseau d'amis le plus précieux que la France a dans le monde entier. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Philippe Étienne, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et européennes, dans une communication sur la réforme de la politique culturelle extérieure de la France, qu'il a prononcée dans le cadre du 31e colloque international de l'Alliance française à Paris le 27 janvier 2009. Ensuite, fut organisée une table ronde entre différentes personnalités sur les stratégies pour le français. Y ont participé Steve Gentili, président de la BRED, président international du Forum francophone des affaires, Xavier Nort, délégué général à la langue française et aux langues de France, Marie-Christine Saragosse, directrice générale de TV5 Monde, Catherine Stenou, directrice des politiques culturelles à l'UNESCO, et cette table ronde était animée par Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. Le président de la BRED et du Forum francophone des affaires, Steve Gentili, ouvre le débat.
Je serai extrêmement bref. Tout d'abord parce que je voudrais essentiellement excuser Jean Favier qui, pour des raisons de santé graves, n'a pas pu être parmi nous et simplement dire quelques mots sur le rôle des commissions nationales pour l'UNESCO. C'est l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a ceci de particulier d'avoir dans chacun de ses États membres une commission nationale où sont représentés à la fois les départements ministériels concernés par l'organisation et également, je dirais, les communautés éducatives, scientifiques et culturelles. Pour la commission française, notre mission est d'une part de promouvoir au sein de l'UNESCO la pensée, la culture et bien sûr la langue française et je dirais un petit peu en sens inverse, de promouvoir dans la société française les idéaux, les valeurs et les programmes de l'UNESCO. Et c'est peut-être de cette mission qui est venu de notre souhait de nous associer au colloque qui est organisé par l'Alliance française et, d'une certaine manière, d'examiner le rôle du français à la lumière des travaux de l'UNESCO et notamment de la Convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles qui a été, comme vous le savez, un instrument normatif international tout à fait exceptionnel, adopté en 2005 et dont la mise en œuvre commence actuellement. Autrement dit, il faudrait peut-être s'interroger, d'une part, sur la valeur traditionnelle du français comme outil de diffusion culturelle et scientifique, j'insiste aussi sur le deuxième terme, mais aussi de la langue française comme vecteur de la diversité des cultures, vecteur de la spécificité et du droit à la différence. 2008 a été, comme vous le savez, l'année internationale des langues, et je crois que peut-être cette réflexion peut prolonger les nombreux débats qui ont eu lieu lors de cette année internationale. Je vous remercie tous de votre attention.
La parole est maintenant à Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, qui se charge pour l'occasion d'animer cette table ronde et il introduit cette réflexion autour des stratégies du français en nous exposant ces quatre modèles d'application et d'interpénétration du français à l'intérieur de la mondialisation. Dominique Volton.
Bonjour, merci à ceux qui m'ont accueilli et merci à ceux qui m'accueilleront. Et en tout cas, on va essayer de faire un débat le plus animé possible. La question quand même qui nous est posée, c'est stratégie pour le français. Alors, ce que je veux dire, ce qui a changé quand même en 30 ans, c'est la mondialisation, c'est l'ouverture. Il n'était pas prévu à ce point-là. C'est quand même le fait que pour l'instant, ça ne se passe pas très bien économiquement et financièrement, mais que l'ouverture est un fait acquis. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement réel, c'est l'affirmation des identités culturelles au sens large, religieuse, demain symbolique, linguistique. D'ailleurs, parenthèse, j'avais oublié que 2008 avait été l'année des langues. Ça ne s'est pas tellement vu. Hein. Preuve d'ailleurs que les enjeux culturels sont moins visibles que les enjeux économiques ou financiers. Donc voilà les deux grands changements. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, par rapport à ça, on peut dire une fois de plus que les alliances françaises, c'est vrai, font partie du patrimoine qu'a joué l'ouverture et la mondialisation avant l'heure, puisque vous avez même, en liaison avec l'État français, parfois de manière autonome, une couverture mondiale. Donc, de ce point de vue-là, vous, si je puis dire, vous arrivez à faire à peu près un retour sur investissement, ce qui n'est pas le cas de la France. Bon, le problème de la France, il est simple, c'est qu'au moment où nous avons un réseau mondial qui pourrait être valorisé, eh bien, pour des raisons un peu étroites, nous le rétrécissons. Au moment où, comme vous le voyez dans votre programme pour demain, les Chinois, les Espagnols, les compagnies vont l'ouvrir. Donc, si je puis dire, dans ce relatif déséquilibre et dans cette espèce de manque de perspective de la France et de valorisation de ses atouts, ben, vous, les alliances françaises, vous êtes un contrepoids. Donc, ça, c'est le contexte général. Le contexte général, c'est tout de même que les enjeux culturels vont devenir des enjeux politiques mondiaux forts. Et je le rappelle toujours, la culture, c'est la langue, c'est la vision du monde, c'est la religion, c'est le système politique, c'est la conception de la liberté, c'est en fait ce qui fait que vous et moi, on est prêts à se battre. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus violent que l'économie. Et comme je le dis souvent, on a connu une mondialisation politique avec le cadre de l'ONU, on a connu une mondialisation économique avec l'ouverture du monde et ses trébuchements qu'on connaît actuellement, et on est face à la troisième mondialisation qui est le surgissement des enjeux liés à la culture et au rapport culture-communication-politique. Donc, si je puis dire, travaillant comme vous travaillez sur la langue et la culture, vous êtes au cœur des enjeux politiques de demain, et la France, vision à la fois universaliste, faisant partie de l'Occident, est un des acteurs, même si actuellement nous rétrogradons un petit peu, mais c'est pas grand-chose, disant, en condition de ne pas perdre des... Donc moi, ce que je veux dire en intro, c'est ce sur quoi nous ne sommes pas trop nuls du point de vue du français, c'est incontestablement, on se bat pour la langue, même si ce n'est pas très bon, on est quand même autour de 200 millions. Avec la langue, on se bat quand même autour de l'éducation, ce que vous faites, ce que fait l'État français plus ou moins, ce que font un certain nombre d'États francophones. Et on se bat un peu, tradition politique oblige, sur la culture. Donc moi, je dirais que stratégie pour le français, ça, ces choses-là sont relativement acquises. Maintenant, si on veut que la francophonie demain, que ce soit la francophonie vue de la France ou la francophonie vue du point de vue multilatéral, les points de vue ne sont pas exactement les mêmes et les différences sont très importantes à préserver. Quel que soit le point de vue, moi je dirais qu'il y a un certain nombre de faiblesses pour le français et j'en listerai quatre principalement sur lesquelles on pourrait manifestement agir. Premièrement, c'est sur la politique. La langue française n'est plus suffisamment la langue de la politique. Elle le fut longtemps, elle le fut en gros jusqu'aux années 50-60. Donc là, il y a manifestement, pour qu'une langue soit moderne, il faut qu'elle soit présente dans le champ politique. Deuxième chose, elle n'est évidemment pas suffisamment présente dans le champ des affaires. Et vous savez, je me bats depuis des années avec beaucoup d'échecs, pour qu'il y ait un investissement, pour que les multinationales francophones défendent le français, parlent français. Et c'est pas seulement de parler français, mais affirme un style culturel qui est qu'on ne fait pas des affaires de la même manière quand on parle en français, en espagnol, en chinois, en anglais. Et pour faire prendre conscience de l'importance de la diversité culturelle dans le monde des affaires, le jour où nos amis chinois imposeront que l'on parle en chinois pour négocier avec eux, là je pense que tout le monde comprendra que les langues de travail ont un rapport de force avec l'économie et la politique. Pour l'instant, ils font semblant de baragouiner trois mots d'anglais. Donc tout le monde baragouine trois mots d'anglais, mais le jour où ils diront, bah, écoutez, non, on parle en chinois, ça ne vous embête pas, ou on parle en arabe, ailleurs, là, je pense qu'on comprendra que le patrimoine linguistique est une des conditions du patrimoine économique. Deuxième chose qu'il y aurait manifestement des progrès à faire, c'est être présent comme langue de la modernité dans le champ des affaires. La troisième chose, naturellement, c'est dans le domaine scientifique et technique. Vous savez qu'en gros, les communautés francophones dans le monde sont loin d'être nulles, mais dans la guerre des sciences et des techniques et dans l'impérium qui existe dans l'économie mondiale, il y a une domination de l'anglais et les scientifiques et les ingénieurs ne sont pas les premiers à défendre, hélas, j'en sais quelque chose parce que j'appartiens au CNRS, ne sont pas les premiers à défendre comme langue scientifique le pluralisme linguistique, qui est pourtant une des conditions demain du fonctionnement de la communauté scientifique. Tout le monde est prêt à vendre son âme pour parler les 400 mots minables d'anglais que tout le monde échange au niveau mondial. Le problème, c'est jamais l'anglais, hein. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est toujours la trahison des clercs. C'est pas les anglophones. Donc la quatrième chose, chantier important, c'est être beaucoup plus présent sur le terrain scientifique et technique pour justement faire prendre conscience que l'on pense, que l'on crée, que l'on rêve différemment selon la langue que l'on parle. Et de ce point de vue-là, se battre pour la francophonie, mais aussi pour la lusophonie et l'hispanophonie, puisque ce sont des langues romanes, dans les échanges techniques au niveau mondial, ça fait partie des batailles de demain du respect de la diversité culturelle. Alors la contradiction de la France, c'est qu'elle s'est battue pour la diversité culturelle, elle se bat pour la francophonie, où la reconnaissance de la francophonie, c'est aussi la reconnaissance du pluralisme linguistique, ce qui n'est jamais su. On considère que la francophonie, c'est uniquement la défense du français. C'est quand même un objectif normatif plus élevé. Mais du coup, on n'en tire pas les conséquences, à savoir qu'au minimum, au travers les langues romanes, on devrait défendre dans le domaine scientifique et technique une autre présence que celle qu'on détient actuellement. Puis le quatrième chantier sur lequel il faudrait évidemment agir, c'est la communication. La France, l'Europe ont perdu la bataille de la communication pour l'instant. C'est une bataille qui porte sur la presse écrite, sur la radio, sur la télévision, sur naturellement les nouvelles technologies. Et là, il faut reconnaître que, pour l'instant, le dynamisme francophone n'est pas extrême. Heureusement, nous avons deux choses, largement insuffisamment développées, TV5 et Euronews, et c'est tout. Donc le quatrième, c'est la communication. Et évidemment, la mondialisation est inséparable, je l'ai dit tout à l'heure, du surgissement des identités culturelles, donc de la problématique culturelle, linguistique, savoir-vivre, philosophie, tout ce qu'on veut. Et vous savez qu'aujourd'hui, la culture est inséparable des techniques de communication. Donc se battre pour une communication francophone, c'est naturellement se battre pour une présence de langue française sur les techniques. Presse écrite, radio, télévision, internet, je ne développe pas. Donc voilà, de mon point de vue, pour une stratégie pour le français, c'est ça. On essaye de garder l'acquis, c'est-à-dire la langue, l'éducation et la culture. Ça, c'est notre fond commun. On se bat beaucoup plus pour les affaires, la politique, la science et la technique, et la communication au sens large. Ça, c'est un enjeu politique si on veut que la langue française et que la langue romane au sens large aient une place plus grande. Voilà, et pour finir, je dirais que je trouve qu'on est confronté pour résoudre ce problème à deux défis. Le premier, je crois, c'est accepter un élargissement de la définition de la langue française. Vous savez qu'on est une langue qui est restée relativement stable, riche, forte pendant 3 siècles. L'Académie française, c'est très important. Mais ce qui se joue avec la mondialisation, c'est naturellement l'ouverture, la circulation. Et à partir du moment où nous avons de plus en plus de circulation physique et de circulation par les systèmes d'information et de communication, par définition, la langue bouge. Et je pense que le défaut de la langue française, c'est qu'elle confond le fait qu'il faut conserver évidemment un certain patrimoine linguistique, culturel, avec le fait que par ailleurs, comme toute langue vivante importante, elle bouge, et donc par conséquent, comme j'ai souvent dit, il y a la langue française parlée par les Français, il y a le français parlé par les enfants de l'immigration et par les enfants des Outre-mer, puis toutes ces milliers de petites bribes de français parlées dans le monde. Et donc je pense que si on veut être capable d'affronter ces quatre chantiers, il faut alors être beaucoup plus souple, beaucoup moins normatif sur le degré de connaissance de la langue française. Autrement dit, assouplir nos conditions d'apprentissage, être beaucoup plus ouvert, accepter ce que font les Espagnols, ce que font évidemment les Portugais, ce qu'ont évidemment accepté de faire les Britanniques, c'est-à-dire une forme de massacre de la langue au départ et finalement une capacité d'adaptation de la langue à la modernité. On ne peut pas à la fois vouloir être une langue mondiale et la conserver telle qu'elle a été parlée en 1920. La mondialisation change complètement les donnes. Alors donc on doit faire deux choses, à la fois conserver notre patrimoine linguistique classique, qui vient de la France, et être capable de s'ouvrir pour être capable de gérer, mieux que ça, si je puis dire, une appétence, une demande, une capacité, d'être sensible à l'effort que font des hommes et des femmes et des enfants pour baragouiner des mots. Autrement dit, être capable d'avoir 400 mots francophones comme il y a 400 mots d'anglais. Voilà. Ce serait un bon objectif. 400 mots français internationaux comme les 400 mots d'anglais internationaux. Et le deuxième changement est, à mon avis, plus important et plus difficile à faire, et il résulte de la problématique de la diversité culturelle, c'est qu'un des enjeux de la mondialisation, c'est que nous sommes dans un monde ouvert, qu'on est obligé de reconnaître la présence de l'autre et de son égalité, qu'on ne va plus continuer à pouvoir faire une espèce de politique top-down, comme on dit, de haut en bas. Et moi, je crois franchement que si la France et tout ce qui est autour des institutions françaises veut demain avoir un rôle pionnier sur les rapports des sciences culturelles, c'est à condition de changer de modèle culturel, c'est-à-dire de ne plus seulement considérer les ambassades, les consulats, les agences françaises et tutti quanti comme des lieux de diffusion de la culture française ou des lieux d'influence de la culture française, vous avez entendu Philippe Etienne il y a un quart d'heure, diffusion ou influence, vous voyez le modèle. Hein. Et donc nous devons inventer un modèle où nous serons peut-être pionniers, mais je pense que c'est la paix pour l'avenir, c'est-à-dire d'être des lieux aussi de cohabitation culturelle, où naturellement nous défendons nos valeurs et notre culture, mais aussi nous en faisons des lieux de débat avec les cultures des pays dans lesquels nous sommes. Et c'est indispensable de changer de modèle culturel. C'est-à-dire pas seulement des lieux de diffusion, des lieux d'apprentissage, des lieux d'influence, comme on dit, mais aussi être des lieux où, en fait, on admet que celui chez qui on est aussi intelligent que nous, aussi cultivé que nous, et que nous avons des choses à apprendre autant que lui a à apprendre de nous. Et ce changement culturel, je reconnais qu'il est relativement difficile pour l'instant, parce qu'on est quand même dans des modèles de domination d'influence culturelle dans le monde. Les Chinois sont en train de faire la même chose, les Espagnols font la même chose, les Britanniques font la même chose. Et je trouve que nous, on devrait être les premiers à essayer d'inventer un modèle qui, naturellement, veillerait à défendre nos intérêts, ça va de soi, mais qui, en même temps, serait un modèle qui veillerait à donner plus de place aux cultures, aux savoir-faire des pays dans lesquels nous sommes. Et je pense que, ce faisant, on passerait d'un modèle classique de défense des identités culturelles et de diffusion des modèles à un modèle de cohabitation culturelle qui est de toute façon l'horizon normatif de la mondialisation, puisque dans la mondialisation, il va bien falloir apprendre à cohabiter paisiblement les uns les autres, donc à se respecter, donc à tenir compte des autres. Voilà donc, de mon point de vue, si je peux dire, stratégie, quatre sujets précis sur lesquels il faut qu'on agisse, et deux changements culturels, un élargissement de la définition de la langue et un changement de comportement culturel, c'est-à-dire accepter beaucoup plus un modèle cohabitationniste qu'un modèle de diffusionniste, si jamais le mot existait en langue française. Voilà.
Ici, le secrétaire général de l'Alliance française, Jean-Claude Jacques, répond.
Je ne veux pas prêcher simplement pour ma paroisse, mais c'est, franchement, Dominique, c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, dans les productions culturelles des Alliances françaises, sans exagérer, 50% correspondent à une valorisation des cultures locales. Innombrables sont les Alliances françaises qui font de l'édition de textes d'auteurs du pays où ils sont. Je reçois peut-être deux ou trois fois par semaine des CD ou des DVD qui ont été produits par les Alliances sur la musique du pays qui les accueille aussi, ou sur les films. Donc on est vraiment dans l'organisation Alliance française, exactement dans cette démarche, et je peux pas parler pour les centres culturels, mais je les connais aussi, ils sont aussi dans cette démarche. Et on trouve partout cet équilibre. D'ailleurs, on a même reproché à la France de faire trop valoir les cultures étrangères en France, et à la fin de trop financer les grandes années de la culture en France. Donc ce point de vue-là, c'est un point sur lequel je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi, ça existe déjà. Et alors, est-ce qu'on le fait bien ou mal? Ça, c'est une autre question, hein. Mais on le fait. Et puis, le deuxième point, mais c'est toujours très bien, Dominique, parce qu'il provoque un tas de choses. La deuxième chose, c'est les Français. Alors souvent, je pense que Xavier en dira aussi quelque chose, on nous dit à nous, Alliance française, mais vous ne faites pas assez valoir la diversité des Français dans le monde. Oui, mais il y a un moment où il faut être concret, on a des élèves en face de nous. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est-à-dire, comment on fait pour leur apprendre le français? Donc il est évident qu'on est obligé, d'ailleurs les Portugais aussi, moi j'ai fait du portugais, j'ai appris un portugais standard, après je me suis adapté au brésilien, au portugais, etc. Mais il est évident qu'on est obligé d'avoir quelque chose de globalement normatif, et d'avoir une sorte de repère, et d'ailleurs c'est ce que pratiquent évidemment les télévisions aussi, quand elles, que ce soit TV5, ou même si elles laissent la place aux expressions des autres pays, mais il faut bien que l'on ait, au moment où on fait de l'apprentissage d'une langue, effectivement une sorte de langue de base. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, enfin de base, de qualité, mais ce que je trouve intéressant, c'est les 400 mots. Ça, c'est... Est-ce que ça dépend d'une volonté de notre part? Est-ce que, en fait, les 500 mots du Global English n'ont pas été exsudés par la société, par les activités? Ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est réduit peu à peu pour communiquer. Ça n'a pas été une décision quelque part prise au Pentagone ou à Londres, quoi. Donc ce serait peut-être intéressant que le français en arrive justement à pouvoir produire un petit corpus minimum de communication aussi aisé que l'anglais. Mais alors là, comment faire? Je pense que ça, c'est, je ne sais pas si ça dépend totalement de nous.
À son tour, Dominique Volton répond.
Puisque je me suis mal exprimé, que la communication, une fois de plus, n'a pas réussi, c'est un exemple typique. J'ai dit rapidement tout à l'heure l'hommage que je vous ai par le fait que vous avez été mondialisé avant les autres. J'ai oublié de dire, en finissant, pardon, que ce modèle culturel, c'était probablement les Alliances qui avaient fait le plus de choses dans cette direction. Ceci dit, Je persiste et je signe quand même. J'ai bien entendu les grommellements aussi à droite en disant ça se fait partout dans le monde. Non, c'est pas vrai. Changer de modèle culturel et admettre en définitive non pas forcément une parité, mais un modèle de cohabitation culturelle, c'est prodigieusement difficile. Oui, c'est vous qui le faites le plus. Par contre, c'est pas valorisé. Ce n'est pas su, hélas, parce que le modèle culturel des Alliances françaises n'est pas perçu comme étant avant-gardiste, hélas. Donc là, il y a un vrai problème de valorisation, mais la valorisation ne dépend pas de vous, parce que pour valoriser un message, il faut qu'il y ait aussi un récepteur qui soit capable de le recevoir. Donc, un, vous ne faites suffisamment pas d'efforts pour valoriser ce que vous faites comme justement interface entre deux cultures. Et deux, le tissu culturel français est ainsi fait que, pour l'instant, il ne perçoit pas les alliances comme étant bon. Donc, je suis tout à fait d'accord, vous faites beaucoup plus que les autres, y compris sur le plan financier. Et de toute façon, ce qu'a dû vous dire tout à l'heure le directeur de cabinet, c'est qu'en fait, le modèle économique des centres va plutôt de plus en plus ressembler à ce que font les alliances depuis longtemps. Mais vous le faites, c'est pas connu, c'est pas su, c'est pas valorisé, donc il y a manifestement un problème de décalage, et je pense que ce décalage, même si la France est probablement le pays qui est le plus attentif ou le moins inattentif aux cultures des autres, ce n'est tout de même pas encore dans la culture actuelle en Europe, et même plus généralement dans le monde, à fortiori aux États-Unis, l'idée que la cohabitation, le concept de diversité culturelle est passé, tu l'as dit, sans aucune application. Le concept de cohabitation culturelle, encore moins, si je puis dire. Donc, même si le pays comme la France est celui qui est un peu sensible à d'autres cultures dans certains pays, à certaines conditions, l'idée générale ne passe pas. On est quand même, si on passe du vocabulaire de la diplomatie classique à la diplomatie d'influence, moi j'entends le mot influence, il veut dire ce qu'il veut dire. Donc, si vous voulez, on sera un jour obligé de changer de modèle culturel, et ce sera très difficile parce qu'apprendre à cohabiter, ça suppose respecter l'ensemble des autres cultures qui ne sont pas les nôtres, et c'est difficile. Voilà. Et sur les 500 mots, je finis, ou 400, bien sûr que ce n'est pas une déclaration politique, mais les 700 mots britanniques, ils ont été instigés par personne, ils sont en fait le résultat d'une pratique. Donc ce qui serait agréable à constater dans quelques années, c'est que finalement le français étant devenu une langue moderne pour les affaires, la politique, la science, ce finalement serait présent dans ces 400 à 600 mots qu'on repérait. Donc ça ne peut pas se décréter, ça ne peut pas s'enseigner, simplement on pourrait le constater. Et je trouve qu'on deviendrait, ce serait un des tests, ce que je voulais dire tout à l'heure, un des tests de la mondialisation de cette langue, dans ses aspects modernes et pas seulement porteurs de patrimoine culturel, politique, serait dans le fait qu'on constaterait, comme on le constate pour l'espagnol, comme on le constate pour l'anglais, comme on pourrait même le constater presque pour le brésilien. Voilà, donc je remercie la Sainte Alliance française.
Suit l'intervention de Marie-Christine Saragosse, directeur général de TV5 Monde.
Toutes ces idées de Dominique, de Jean-Claude me bouleversent. Je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que je ne sais pas si certains d'entre vous sont là depuis plusieurs années, mais j'arrive toujours à me faufiler dans le colloque annuel de l'Alliance française. Un coup, je suis à TV5, un coup, je suis au ministère des Affaires étrangères en charge de la direction de la coopération culturelle et du français, un coup, je reviens à TV5. Non, pas encore. Et en fait, ce que ça prouve, c'est que tout simplement, c'est la même histoire. C'est la même histoire et je profite du fait de ne plus être au ministère des Affaires étrangères pour vous dire, puisque là j'ai pas de mérite à le dire, que j'ai été absolument touchée, bouleversée, j'ai trouvé beaucoup de sens pour la vie tout court à travailler avec l'équipe de ce ministère qui est ici dans la salle et avec vous tous dans les alliances françaises, que j'ai trouvé qu'en dépit des difficultés sur les moyens, il y avait une sorte de passion, d'ingéniosité, d'opiniâtreté, d'envie, qui faisait plaisir, quoi, qui donnait beaucoup, beaucoup de profondeur à la vie au-delà de la langue française, au-delà de la culture. Et donc, je vous le dis en passant, parce que je suis très heureuse d'être de nouveau parmi vous aujourd'hui. Alors, Dominique parlait de cette culture, de l'altérité, au fond, dans la culture comme dans la langue, par rapport aux autres. Et bon, je vais parler de TV5 Monde, puisque c'est la chaîne où je suis, mais elle a 25 ans, et je pense qu'il n'y a pas d'autre espace culturel ou linguistique dans le monde qui se soit doté d'une sorte d'ovni, comme ça, de structure un peu incroyable. Il n'y a pas d'autre exemple que dans l'univers de la francophonie. Or, je constate qu'il n'y a pas d'autre exemple non plus d'alliance française, c'est-à-dire d'associations de droit local créées par des étrangers pour soutenir la langue et la culture d'un pays tiers. Voilà déjà deux fois qu'en francophonie, nous avons des exemples qui sont sans équivalent dans le monde. Troisième exemple sans équivalent dans le monde, le lycée français. En 1851, je crois, quand le premier lycée français en tant que tel, parce qu'il y en avait déjà eu dans peut-être les dom-tom, mais c'était autre chose, mais à Berlin, quand le premier lycée français ouvre ses portes, immédiatement, il s'ouvre aux élèves nationaux. Et c'est un signe caractéristique des lycées français. Ils ont toujours été ouverts aux élèves nationaux. Et souvent, à l'étranger, on disait d'ailleurs, quand les Français arrivent quelque part, ils ouvrent une école avant d'ouvrir une église, et ils l'ouvrent aux nationaux. Et ça aussi, c'était un signe distinctif. Donc je me dis qu'avec ce faisceau d'indices, Alliance française, lycée français, et puis dans l'univers des médias, le plus récent, il y a quand même quelque chose, il faut croire qu'il y a un fond de valeur, quelque chose autour de cette langue française et de cette francophonie, qui fait qu'on invente des choses qui ne ressemblent pas aux autres espaces linguistiques. et que peut-être que cette capacité à être un peu moins inattentif aux autres que dans les autres sphères linguistiques, elle a à voir avec cette langue qu'on a en partage, parce que je ne crois pas que les langues soient des vecteurs neutres, mais je crois au contraire qu'ils forgent notre esprit, notre vision du monde, notre façon de penser, de concevoir. Je pense que nos pensées naissent toutes habillées par les mots, que ce sont même les mots qui les génèrent plutôt que parfois l'inverse, et que donc apprendre à jouer avec ces mots, c'est aussi apprendre à inventer, à créer, et que les idées, elles dépendent de la langue et pas l'inverse. Voilà, je voulais vous dire ça simplement pour souligner que le miracle dans cette affaire de TV5 Monde, c'est qu'en 1984, quand ses fondateurs, par effraction, ont créé cette chaîne, parce qu'il y a eu des faux signés au Quai d'Orsay, et j'aurai des preuves pendant cette année des 25 ans, c'était pas prévu, c'était pas budgété, et il y a des gens qui étaient convaincus que c'était important et qui ont lancé le projet, et c'était rien du tout. C'était quoi ? C'était, il y avait 5 chaînes qui se réunissaient, TF1 à l'époque, il y avait une chaîne Antenne 2, FR3, il y avait une chaîne belge, une chaîne suisse, et ils avaient 3 heures par jour, ils avaient loué un satellite parce qu'ils s'étaient dit, tiens, les moyens de communication modernes, c'est pas mal, et donc on va monter dessus. Il y avait 3 heures par jour, chaque chaîne était différente, et voilà ce que c'était. 25 ans plus tard, il y a 189 millions de foyers raccordés. Je cite des chiffres, pas pour faire d'autosatisfaction, mais simplement parce que c'est le deuxième réseau mondial. Je le redis à chaque fois, parce que nous, les francophones, on aime bien s'autoflageller, surtout pas tellement les francophones, les français. Donc, on est le deuxième réseau mondial. Le premier réseau avant nous, il est américain, c'est un réseau musical, c'est un réseau thématique, c'est MTV. Effectivement, quand on chante, il y a moins de barrières linguistiques que quand on parle des phrases articulées. Voilà, donc, le premier réseau mondial, il est américain, il s'appelle MTV. Le deuxième, il s'appelle TV5 Monde et il est francophone. Alors, 189 millions de foyers, ça c'est ceux qui peuvent nous voir. 54 millions de téléspectateurs différents qui nous regardent chaque semaine. Donc, voilà, moi je fais un constat, après j'explique pas pourquoi ils nous regardent, alors évidemment encore faut-il qu'ils puissent nous suivre. Donc si la langue française c'est notre, c'est plus que notre signature, c'est notre raison d'être au fond, et puis c'est notre passion, c'est notre, on a un rapport amoureux à cette langue-là, TV5 Monde, c'est, oui, on est amoureux de cette langue-là, mais parce qu'on est amoureux de cette langue-là, on aime toutes les autres, et donc on sous-titre. Évidemment qu'on sous-titre dans les autres langues, et on espère, on sous-titre dans 8 langues, dans 8 autres langues. Et d'ailleurs, amour sous-titré, c'est très beau, hein. On arrive à le comprendre dans presque toutes les langues. Mais, et donc, voilà, donc, on sous-titre en 8 langues, et bien sûr en français. Donc, ça veut dire qu'on sera accessible à des francophiles, parfaitement francophones, et ils sont très nombreux. Par exemple, aux États-Unis, 57% des gens qui nous regardent ne sont pas du tout de langue maternelle francophone, ni même de langue professionnelle. Au Brésil, 80% de nos téléspectateurs sont pas de langue maternelle française, sont même brésiliens d'ailleurs, et donc évidemment on sous-titre en brésilien, on sous-titre en anglais, on sous-titre en arabe, on sous-titre en allemand, en néerlandais, en roumain, et donc j'en ai oublié plein, en anglais évidemment, en anglais, en français, donc voilà, 9 langues. Donc voilà, donc ce rapport à la langue française, il n'est pas exclusif, il n'est jamais inattentif aux autres, ni à leur culture, ni à leur langue. Et je pense que c'est l'essence même des alliances françaises, des lycées français et de TV5 Monde. Alors, tout à l'heure, Dominique, j'abonde dans son sens, Dominique Volton disait que la communication était essentielle et qu'il fallait se positionner, y compris sur les nouvelles technologies. Alors, je vais juste vous intervenir sur 2 points, comme vous donner la boîte à outils TV5, et j'essaie d'être rapide. On vient de lancer un nouveau plan stratégique, Jean-Claude Jacques le rappelait, on a fait notre conférence de presse, et on a dit on est un média global, voilà, TV5 Monde est un média global, c'est-à-dire que nous allons nous rendre accessibles sur tous les supports. Et évidemment, la langue française va nous suivre sur tous les supports. Dans ce domaine, je voudrais attirer votre attention sur les projets qui sont en préparation à TV5 Monde. D'abord, il faut que vous sachiez que ce qu'on appelle la vidéo à la demande ou la télévision de rattrapage, c'est-à-dire la capacité à voir quand je veux, où je veux, les programmes que je veux, sur le support que je veux, c'est-à-dire aussi bien sur Internet que parfois sur la télévision de rattrapage sur mon écran de télé, que sur les téléphones mobiles, que éventuellement d'ailleurs dans des écrans hors foyer, ce qu'on appelle la télévision hors foyer, c'est-à-dire dans les aéroports, dans les chaînes de magasins. Donc les programmes de TV5 y seront de plus en plus, ils y seront aussi sous-titrés. Qu'au-delà de nos programmes, il y a une offre, je vous le signale, pour vous, notamment par rapport à la langue française, vous pouvez accéder sur notre site à 1500 documentaires qui sont regroupés par thématiques et qui peuvent être des outils pour vous par rapport à la langue française. Et prochainement, nous sommes en négociation avec les cinéastes, les exportateurs de films français et francophones, Et vous aurez prochainement une offre de cinéma francophone, toujours pareil, quand on veut ou on veut, pas seulement à la télé. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'on lance une web TV, ce qui s'appelle une web TV pour les enfants. Ce sera une télévision ludo-éducative, destinée aux 3-10 ans, et tout particulièrement adaptée aux enfants qui vivent dans des environnements pas forcément francophones, qui n'ont pas forcément accès à une maternelle ou à une école française. Donc ils auront sur le site de TV5, qui s'appelle donc tv5monde.com, ils auront accès à partir du printemps à une chaîne pour eux, et qui sera ludo-éducative, donc autour de la langue. Je veux vous dire aussi qu'on a développé une dimension participative ou collaborative, comme on voudra, sur notre site, autour de deux thèmes, la musique et la création musicale, et donc les jeunes talents, et ils peuvent venir du monde entier, et ils peuvent chanter en français avec tous les accents de cette langue, pourront envoyer leurs vidéos, et il y aura un concours, et les meilleurs d'entre eux viendront à la télévision dans notre émission acoustique. Donc je vous dis ça parce que ça peut être intéressant dans les alliances de monter des choses autour de ce concours. Mais le deuxième concours va vous intéresser aussi. Nous avons lancé un nouvel habillage à l'occasion de ce nouveau plan, qui est à l'antenne depuis lundi. Et il raconte la langue française, cet habillage, et ses plus belles phrases. Il y a des gens des quatre coins de la planète qui vont citer aussi bien des proches que Michel Audiard, mais que Senghor, mais que Pateba, que d'autres poètes, d'autres écrivains. Alors, c'était pour amorcer, on a enregistré un certain nombre de phrases comme ça. Alors, par exemple, des proches, on a piqué à des proches la phrase « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui », par exemple, et quelques autres. Bon, et on va demander aux internautes de choisir les phrases qui les ont les plus touchées dans la langue française, pas forcément des auteurs français, des auteurs de toute la francophonie, qu'ils soient africains, qu'ils soient canadiens, qu'ils soient de toutes les origines. Là aussi, sur le site, on choisira les phrases les plus emblématiques. Il y aura un vote des internautes. Et régulièrement, à l'antenne, ces phrases seront portées par des voix qui diront un petit bout, comme ça, comme une respiration, une phrase drôle ou qui se dérange de cette langue qu'on a en partage. Et puis, on lancera, à l'occasion de la semaine de la langue française, aux côtés de Xavier Nort, on lancera un site mobile, c'est-à-dire que sur le téléphone mobile, sur le téléphone portable, on pourra apprendre le français, travailler avec la langue française, avoir des définitions sur des dictionnaires, toute une série de choses. Et avec le ministère des Affaires étrangères, évidemment, avec la direction du français. Donc on est en train de préparer ça pour mettre sur téléphone mobile, partout dans le monde, accessible un site autour de la langue française. Ça, c'était pour vous parler des nouvelles technologies. Parallèlement, je voulais juste vous dire qu'on augmente le volume de sous-titrage de 50% dans toutes les langues que je vous ai citées, dont j'ai omis certaines, mais il y en a 9. Donc on augmente de 50%. Certainement, on va lancer 2 nouvelles langues, mais pas cette année, on n'a pas les moyens pour, mais dans la durée du plan stratégique, on va lancer 2 nouvelles langues et on travaille en études de marketing pour savoir lesquelles sont prioritaires pour exister sur des marchés, parce qu'on est en concurrence, on est sur des marchés, évidemment, ça rigole pas. Par ailleurs, sur Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, hein, vous connaissez déjà, j'ai découvert qu'il y avait des cours 7 jours sur la planète ou dans les alliances françaises, certains d'entre vous avaient développé carrément des méthodes autour de ce qu'on offre avec ce programme. Il y a à peu près toutes les 10 secondes, il y a un exercice qui est fait en ligne sur notre site, toutes les 10 secondes sur les 7 jours sur la planète. Et puis on a eu le label européen des langues grâce à ce programme, donc c'est vraiment les cours TV5, c'est formidable. Nous on est très touchés, on est prêts à vous aider évidemment dans ce secteur, c'est notre plus belle récompense quand on a vu ça. Puis avec les tableaux blancs interactifs, on a toute une série évidemment de produits particulièrement adaptés pour ceux qui se lancent dans ça, et je sais que vous êtes nombreux dans les alliances françaises à le faire, et dans les centres culturels aussi d'ailleurs. Je voulais saluer au passage tous les partenaires pédagogiques de vos équipes d'enseignants qui bossent avec nous à Paris, New York, Johannesburg. Là, en Irlande, on a un projet qu'on lance, une alliance française en Irlande aussi. Et puis, ces derniers mois, on a été sollicités au Portugal, au Bénin, au Ghana, au Japon. Bien sûr, on était au Congrès mondial des profs de français. Et puis, on a été sollicités par les alliances françaises en Inde, au Brésil. Donc, on est vraiment très, très fiers de collaborer avec ce réseau. Et on veut vous dire qu'on prépare également des choses sur la BD, parce que la BD, pour les jeunes, c'est pas mal comme accession à la lecture, sur les régions françaises et francophones, sur le cinéma. Et puis, on est en train de préparer une méthode destinée aux très grands débutants, ceux qui ne parlent pas du tout le français, justement pour se lancer dans ces fameux 400 mots qu'il faut absolument savoir, que Dominique a lancé l'idée des 400 mots. Et d'ailleurs, on se disait avec Xavier Nord que... En Europe, parmi les 23 langues européennes, il y a au moins 400 mots communs. Donc en apprenant ces 400 mots de français, vous apprenez en plus 22 autres langues, ce qui est quand même c'est très intéressant. Et donc voilà, et je voulais conclure en citant mon voisin Xavier Nort, qui ne voulait pas que je le cite, donc je m'empresse de le faire, il se vengera. Non, je trouve qu'il a dit une très belle phrase, et c'était pendant qu'on avait que la France avait la présidence de l'Union, et qu'on s'est beaucoup battu, Xavier beaucoup, avec le ministère des Affaires étrangères et la direction de la coopération culturelle et du français, pour monter les états généraux du multilinguisme en Europe. Évidemment, tout le monde connaît la phrase Umberto Eco, la traduction c'est la langue de l'Europe. Alors je vous en donne une autre qui est un peu moins connue, mais que je trouve encore plus belle. Il faut traduire, traduire, encore traduire, désespérément traduire, contre l'utopie mortelle de la langue unique. Voilà, Xavier Nort, c'était ma conclusion.
Dominique Volton.
Merci Marie-Christine, parce que c'est vrai que c'est quand même toujours agréable de voir TV5 se développer. Et c'est vrai que l'articulation entre TV5 et les alliances est quasi naturelle. Elle pourrait, je pense, être institutionnalisée et développer plus, c'est sûr.
Après d'autres intervenants, Dominique Volton passe la parole à Xavier Nort, délégué général à la langue française et aux langues de France.
Merci Dominique. On m'a dit que j'avais une vingtaine de minutes. Je vais les prendre sans vergogne pour tenter d'apporter une réponse à la question qui nous a été posée. Pourquoi parler français? Pourquoi l'apprendre? Pourquoi l'enseigner? Après tout, la réponse ne va pas de soi. Et je le ferai, si vous le voulez bien, à partir de quelques observations qui nous permettront peut-être d'esquisser une réponse, à partir d'un double constat. Alors, première observation, première série d'observations, elle relève de l'évidence. Partout où le français est parlé dans le monde, il se trouve en situation de contiguïté, de dialogue avec d'autres langues. Il ne faut pas chercher ailleurs l'origine de ce modèle culturel auquel Dominique Volton faisait allusion tout à l'heure, auquel vous faisiez allusion aussi en parlant de modèle d'interculturalité, en quelque sorte. Et c'est l'une des caractéristiques de la langue française. C'est elle qui lui donne, historiquement, ce qu'on pourrait appeler une fonction médiatrice dans le dialogue conflictuel entre les civilisations et les cultures. Fonction dont la langue française n'est évidemment pas la seule à bénéficier, bien entendu, mais qui est bien réelle. On le dit parfois de manière un peu complaisante, je le reconnais. En tout cas, le français est naturellement confronté au pluralisme linguistique, c'est un fait. On s'interroge volontiers sur le rayonnement d'une langue. L'indicateur le plus parlant du rayonnement d'une langue, à mon sens, c'est le nombre de langues avec lesquelles cette langue est en rapport dans le monde. Et ce qui montre que le français rayonne, c'est qu'il est confronté à un très grand nombre de langues. Alors c'est évidemment vrai pour le français en Amérique du Nord, où le français au Québec a résisté jusqu'ici aux assauts de l'anglais. C'est vrai, bien entendu, pour le français en Afrique subsaharienne, où le français coexiste avec un très grand nombre de parlers locaux. Et la remarque vaut aussi, évidemment, pour le français dans le monde arabe. Mais c'est vrai aussi, et on a tendance à l'oublier, pour le français en France même, où il coexiste de facto, sinon de jure, avec un très grand nombre de langues. Alors même que la langue de la République est le français, comme on sait, et que nous vivons dans la religion d'une langue unique. Or, du dialogue qu'entretient le français partout où il est parlé, avec la diversité des langues du monde, découle, me semble-t-il, une conséquence capitale pour nos stratégies de promotion du français. Et je la formulerai en termes généraux, dès lors, parce que c'est l'une des caractéristiques de la mondialisation, que toutes les langues sont désormais, au moins virtuellement, en contact avec toutes les langues, ou ont vocation à entrer au moins virtuellement en contact avec toutes les langues. On ne soulignera jamais assez à quel point notre paysage langagier a changé au cours du dernier quart de siècle. Et ce changement est évidemment lié au développement exponentiel des techniques de communication. Tout se passe en réalité comme si notre planète avait rétréci, alors qu'autrefois un individu, au cours de sa vie, avait relativement peu d'occasion d'entrer en relation avec une autre langue. Aujourd'hui, toutes les langues sont en relation, encore une fois, au moins virtuellement, avec toutes les langues, dans une sorte de cacophonie universelle. Il suffit pour s'en convaincre de décrocher son téléphone portable, d'allumer son poste de télévision, on a accès à des centaines de canaux dans des dizaines de langues, ou simplement d'observer les foules à la fois cosmopolites et multilingues qui se pressent aux portes des monuments touristiques. Nous vivons dans une sorte de cacophonie universelle. Alors, la conséquence de cette situation, qui est tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il est tout simplement impensable aujourd'hui de concevoir une politique linguistique seulement comme la promotion d'une langue, sans considération pour toutes celles qu'elle côtoie, qu'elle rencontre, avec lesquels elle est amenée à dialoguer, dans les frontières, dans les limites des frontières nationales ou à l'extérieur, une politique de la langue ne peut être qu'une politique des langues, c'est-à-dire des relations entre les langues. Ça, je crois qu'il faut absolument s'en convaincre. Et dans cette politique, il importe bien entendu aujourd'hui de faire une place à ce que Chateaubriand appelait un dialecte de transaction, c'est-à-dire, en effet, à une langue de communication internationale, à la langue dite globale, qui est cet anglais minimal que l'on a coutume de vilipender dans le type de colloque auquel nous participons, mais dont chacun a l'usage dans la vie courante. Bref, il faut cesser d'envisager la langue française et là où les langues avec lesquelles elles coexistent comme des compétences ou des pratiques distinctes, qu'elles sont néanmoins, bien entendu, mais comme les pôles constitutifs d'un régime linguistique qui reflète un échange de valeurs et de sens. Et il faut substituer à une simple politique de promotion du français une politique de promotion de ce régime. C'est d'ailleurs ce que fait le ministère français des Affaires étrangères et européennes, à partir de son excellente sous-direction du français, dont j'ai plaisir à saluer le responsable, Jean-Paul Rebaud, qu'il s'agisse de ses stratégies de coopération linguistique dans les pays du Sud ou de sa politique de formation bilingue en Europe notamment. Ma deuxième observation est également d'ordre géopolitique et nous invite aussi à sortir du cadre de l'État-nation, cet État-nation dont la mondialisation a, je cite, j'emprunte la phrase à Régis Debray, dont la mondialisation a fait craquer les coutures. Si les langues ont de toute évidence une assise territoriale, le développement des flux migratoires provoqués par la fracture nord-sud, le développement des techniques de communication, et notamment des techniques de communication à distance, je viens d'y faire allusion, ont provoqué ce qu'on pourrait appeler une déterritorialisation des communautés culturelles et linguistiques. Et partout se constituent des communautés aux contours incertains qui ne vivent pas toutes sur un même territoire et ne rassemblent même pas tous les habitants d'un même territoire. Pensez aux Latinos de Miami, aux Chinois de Los Angeles, aux Maghrébins de Saint-Denis, aux Pakistanais de Birmingham. Mais ce sont des communautés qui sont rassemblées au contraire par des langues, plus que par l'attachement à un territoire. Et ce sont des communautés déterritorialisées en quelque sorte. Étant entendu qu'un même individu peut être à la fois, peut appartenir à plusieurs communautés à la fois. On peut évidemment être à la fois chinois et américain, on peut évidemment être à la fois français et maghrébin. Et si je suis tout à fait Dominique Volton, qui l'a d'ailleurs exprimé, je crois, dans l'une de ses analyses, à condition d'englober les locuteurs du français hors de l'espace francophone, la francophonie peut tirer parti de ce phénomène en constituant un ensemble géopolitique aux côtés de ces 5 ou 6 ou 7 très grandes communautés internationales que sont la communauté anglophone, la communauté hispanophone, lusophone, arabophone, chinoise et éventuellement hindi. Ce à quoi je voulais en venir, c'est que ces mondes, enfin, ces communautés, appelons-les des mondes, un monde des mondes, Marie-Christine, voilà, un monde des mondes, en tout cas ces mondes, qui d'ailleurs se chevauchent, sont et seront de plus en plus déterritorialisés. Miami est de toute évidence une capitale latino-américaine, et elle est en Amérique du Nord. Le monde chinois mord sur la Californie, et sur les côtes péruviennes, il y a 300 000 Chinois à Lima, je crois. L'espace ibéro-latino-américain a totalement investi les États-Unis de l'intérieur, de sorte que le pays qui, aujourd'hui, impose sa langue globale et que l'on fustige comme le pays qui porte le nivellement linguistique est lui-même un pays multilingue, un pays bilingue, presque totalement bilingue. Quant au monde arabo-musulman, il suffit de se promener dans les rues de nos villes, en France même, pour comprendre qu'il ne s'étend pas exclusivement de l'autre côté de la Méditerranée. En d'autres termes, et ceci pour dire que nos découpages traditionnels, Asie, Amérique, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ne sont absolument pas pertinents si l'on souhaite prendre en compte la spécificité culturelle des pays ou des territoires, et des territoires parfois immatériels, parce que ces communautés existent de plus en plus sur des réseaux informatiques, pensons au web participatif ou collaboratif, auquel on s'adresse. La coopération espagnole, pour ne citer qu'elle, qui obtient des résultats assez spectaculaires en Amérique latine, ne s'y est pas trompée, qui cible les pays non pas en fonction nécessairement de leurs frontières nationales, mais en fonction du sentiment d'appartenance à une communauté linguistique. Et de fait, C'est souvent en fonction du sentiment d'appartenance à une communauté linguistique que se constituent progressivement de nouveaux ensembles géopolitiques, et ce sont ces ensembles même, plus que les nations, plus que les États-nations, qu'il nous faut viser dans nos stratégies pour le français, en mettant en œuvre des politiques différenciées, et c'est ce qu'on s'efforce, je crois, aujourd'hui de faire. Et plus encore que des pays ou des territoires dématérialisés, ce qu'il nous faut pouvoir cibler, ce sont ces identités elles-mêmes. Alors, pour revenir au thème de notre table ronde, pourquoi parler, pourquoi apprendre ou enseigner le français dans ce contexte géopolitique dont je viens de tenter de brosser maladroitement quelques traits distinctifs? La première raison est frappée au coin du bon sens. On peut souhaiter parler ou apprendre le français à des fins de communication. À des fins de communication, oui. Après tout, le français est avec l'anglais, l'espagnol et le portugais, et avec ces trois langues seulement, peut-être demain avec le chinois, qui sait, une langue internationale. Elle peut vous mettre en relation non seulement avec la première destination touristique mondiale, ce n'est pas rien, mais aussi avec la cinquième puissance économique mondiale, l'un des principaux foyers de la civilisation européenne, enfin, toute périphrase utilisée pour désigner la France, mais aussi et surtout, évidemment, c'est une langue qui peut vous mettre en relation avec de nombreux peuples répartis sur les cinq continents, puisque, on vient d'en parler, le français coexiste avec un très grand nombre de langues. Alors, les argumentaires que l'on construit, je pense aux argumentaires construits par l'Alliance, aux argumentaires construits par nos services culturels extérieurs, insistent à juste titre aujourd'hui non plus sur cette fameuse clarté qui aurait rendu la langue française universelle, non pas sur son génie propre qui sommeillerait au creux de sa syntaxe ou de son lexique comme un génie au fond d'une lampe d'Aladin, mais sur les privilèges dont le français continue de bénéficier dans les organisations internationales, et d'abord, et plus prosaïquement encore, et encore une fois à très juste titre, sur sa très féconde dispersion dans le monde. On l'a fait ce soir. Il est d'ailleurs assez paradoxal d'observer que la mondialisation, qui est un facteur d'uniformisation culturelle et linguistique, ne joue pas nécessairement en faveur du français, alors même que l'une des principales caractéristiques du français est de s'être mondialisé. Mais par rapport à d'autres langues, aux autres langues également menacées par l'espèce de cacophonie qui caractérise le paysage langagier de la planète, j'ai fait allusion tout à l'heure, qui se traduit par des pertes de fonctionnalité de toutes les langues au bénéfice de la plus forte, de sorte qu'une forme de monophonie ou de finit par faire taire la cacophonie universelle, le français a l'atout de ne pas être enfermé dans un bassin linguistique, dans un bassin de population, et de ne pas être une langue régionale comme le chinois, l'hindi, l'arabe, et même dans une moindre mesure l'espagnol ou le portugais, hein, qui ne sont guère parlés en dehors de territoires qui sont relativement bien marqués. Mais c'est moins vrai pour l'espagnol, je viens d'y faire allusion en parlant de l'espagnol en Amérique du Nord. Et donc l'argument du nombre, de la dispersion, de la fonctionnalité ne manque ni de pertinence ni de poids. On a raison d'apprendre le français pour sa fonction de communication. D'ailleurs, les chiffres font état d'une progression constante sous le double effet des évolutions démographiques et de l'alphabétisation. On dit aussi souvent, en évoquant la fonction de communication du français, que c'est la langue officielle du plus grand nombre d'États dans le monde après l'anglais, c'est exact aussi, mais ce qui est beaucoup plus important que cette énumération statistique, c'est que le français est présent au nord et au sud. Alors au sud, évidemment, où son appropriation par un grand nombre de pays est réelle, que le français y soit considéré comme une prise de guerre, hein, c'est la phrase célèbre de Katabiassine, ou comme le dit plus joliment son compatriote Fellag, comme un butin de paix. Moi j'aime beaucoup cette expression, un butin de paix plutôt qu'une prise de guerre. Si on arrivait à faire d'une prise de guerre un butin de paix, on aurait sans doute progressé dans notre relation avec le Maghreb. Mais enfin, nous n'en sommes pas tout à fait là, malheureusement. Mais c'est aussi une langue qui est parlée au nord, comme l'anglais. Alors que ce n'est pas le cas de l'espagnol et du portugais en dehors de l'Espagne et du Portugal. Vous prenez l'espagnol et le portugais, ce sont des langues qui sont parlées au sud. Mais au nord, ces deux langues ne sont parlées en fait que par leur berceau historique. Je laisse de côté l'espagnol parlé aux États-Unis, hein, en Espagne et au Portugal, alors que le français est parlé au Canada-Québec. C'est ce qui rend stratégiquement si importante la présence du Canada-Québec dans le mouvement francophone. Parce que, du coup, le français est la seule langue avec l'anglais à ne pas être perçue par le Sud comme le reflet d'une seule grande puissance occidentale. Et peut dès lors, s'il sait jouer ses cartes, associer à ces mots les valeurs de liberté, de développement, de respect du droit international et offrir un choix alternatif à l'anglais aux pays en quête d'une modernité économique et culturelle. Mais, et c'est là que je voulais en venir, si l'on s'en tient au terrain tout pragmatique de l'utilité pratique, si on considère le français sous ce seul angle, les raisons d'apprendre ou d'enseigner le français, donc de le parler, apparaîtront toujours moins déterminantes que celles qui auraient pour les locuteurs d'une langue tierce d'apprendre ou d'enseigner l'anglais, langue globale. Les langues, on le sait, sont prises dans des rapports de force économique, il ne faut jamais l'oublier, dans des rapports de force économique et politique qui les hiérarchisent, non pas sur une échelle de valeurs abstraites. Toutes les langues sont évidemment, comme toutes les cultures d'ailleurs, toutes les langues sont évidemment égales en dignité, mais qui les hiérarchisent dans leur usage et dans leur emploi. Toutes les langues, comme toutes les cultures, sont égales en dignité. Il y a une phrase magnifique qui le dit, c'était le slogan qu'avait pris jadis TV5 sous la houlette de sa directrice de l'époque, qui était Marie-Christine Saragosse. Le centre du monde est partout. On ne pouvait pas dire plus joliment que toutes les langues et toutes les cultures étaient égales en dignité. Le centre du monde est partout. Alors, un monde des mondes, ça porte ce message, mais de manière plus indirecte, peut-être plus médiatique, mais peut-être moins évidente. En tout état de cause, même si les langues et les cultures sont égales en dignité, elles sont inscrites dans des rapports de force. Et ce qui vous le montre d'ailleurs très très clairement, ce sont les situations de bilinguisme, pratiquement toutes les situations de bilinguisme. C'est Louis-Jean Calvet qui en fait la remarque dans l'excellent numéro sur la traduction que tu as publié, Dominique. On apprend toujours la langue la plus diffusée, la langue du plus fort, la langue qui promet la promotion sociale ou la prospérité économique, la langue qui permet d'accéder à un niveau supérieur de développement. Exemple, un bilingue arabe-français est presque toujours de première langue arabe, de même qu'un bilingue arabe-berbère au Maroc est presque toujours de première langue berbère, et un bilingue anglais-français est le plus souvent de première langue française. C'est-à-dire, on apprend la langue qui est immédiatement la plus forte. Et les situations de bilinguisme, ce sont des situations qui illustrent des rapports de force entre les langues. Alors, pour revenir au français, moi, ce qui me frappe à partir de mon petit perchoir de la rue des Pyramides, ce qui me frappe, c'est qu'en réalité, on n'apprend jamais exclusivement le français pour des raisons utilitaires, pour sa fonction véhiculaire, pour sa fonction de communication, pour sa fonction de langue de service. Il est vrai qu'historiquement, le français ne s'est jamais réduit à sa fonction d'outil de communication, mais a toujours constitué pour ses locuteurs un marqueur d'identité, identité sociale, le français langue des élites ou identité nationale. Et la langue française est sans doute, avec l'attachement au territoire qui fonde par le droit du sol l'exercice de la citoyenneté, sans doute un des deux éléments constitutifs d'une identité nationale. C'est une langue qui a toujours tiré sa vitalité de sa capacité à produire des œuvres, à produire des idées ou des œuvres, et dont la portée intellectuelle a contribué plus que tout autre facteur à la répandre. Et je pense ici à cette très belle formule d'Henri Méchonic qui dit que ce sont les œuvres qui portent les langues, et non pas les langues, les œuvres. Ce qui fait la grandeur de l'arabe, c'est le Coran et non l'inverse. Et ce qui fait la grandeur de la langue française, c'est en grande partie le corpus de textes qui a été constitué au fil des siècles par nos moralistes, nos écrivains, nos philosophes, enfin par tous ceux qui se sont exprimés dans la langue française, de sorte qu'aujourd'hui, on lui attache des valeurs de défense des droits de l'homme, les Lumières, etc. Alors que le français, en tant que tel, enfin, en tant que langue, ne porte aucune valeur. Mais chaque langue est merveilleuse. La langue de Brasillac, encore une fois, est une langue magnifique. La langue de Charles Maurras est une des plus belles langues qui soit. Hein, elle n'a pas exprimé les Lumières. Bon, on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Bref, si la langue française attire, et je crois que toutes les enquêtes le prouvent, c'est d'abord parce qu'elle est porteuse d'un art de vivre, d'un patrimoine d'images, d'idées, de valeurs aussi auxquelles elle a fini par être attachée, mais qu'elle ne porte pas spontanément comme ce génie auquel je faisais allusion tout à l'heure. Bref, qu'elle est porteuse d'un modèle culturel. Et parmi les 10 ou 20 raisons qu'il peut y avoir d'apprendre le français, la motivation touristique, professionnelle, enfin, on peut les analyser les unes après les autres dans le détail, la culture vient presque toujours en tête. On peut d'ailleurs en avoir l'intuition en observant un curieux phénomène qui a d'ailleurs été relevé assez récemment lors de l'attribution du prix Goncourt à Atik Raimi, et qui est le nombre d'écrivains d'origine étrangère qui ont choisi de construire leur œuvre en langue française. Quand vous y songez une seule seconde, c'est un phénomène très singulier, très très singulier, parce qu'il est propre à la langue française, pratiquement. Il est propre à la langue française. Innombrables sont, en tout cas au XXe siècle, les auteurs d'origine étrangère qui ont choisi le français comme langue d'expression. Je ne vais pas vous ennuyer avec la liste, mais Milan Kundera, Amin Maalouf, Andrei Makine, enfin, vous pouvez citer très facilement une trentaine de grands écrivains d'origine étrangère qui ont choisi le français pour langue d'écriture, alors qu'à ma connaissance, aucun écrivain d'origine française, enfin je n'en vois pas, n'a jamais choisi une autre langue d'écriture. Je n'en vois pas. Ou même francophone. J'ai entendu parler d'un Haïtien qui avait commencé à écrire en français et qui publiait aujourd'hui en anglais. Et dans les lettres internationales, les transfuges sont extraordinairement rares. Vous citez toujours Conrad, Joseph Conrad et Vladimir Nabokov, mais une fois que vous avez cité Conrad et Nabokov, moi, je vois assez peu d'écrivains hispanophones qui ont choisi l'anglais comme langue d'écriture. Donc, ceci pour dire, et de manière un peu elliptique, avant de croiser le fer avec Marie-Christine, parce qu'on aime bien ça, et pour conclure, qu'on se tire une balle dans le pied en refusant de promouvoir le français comme langue de culture. Je crois qu'aucune langue n'a illustré cette ambivalence profonde de toutes les langues mieux que le français, à la fois la fonction de communication et la fonction de langue de culture. Et je crois que si nous voulons que le français survive dans l'affrontement géopolitique des civilisations, il faut le penser non pas seulement comme la langue d'un pays, non pas seulement comme le lien fondateur d'une organisation internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, mais comme celle d'une communauté globale, comme celle d'une communauté déterritorialisée, et se donner les moyens de rendre cette communauté désirable, ce qui suppose sans doute de bouleverser des problématiques traditionnelles. Le français a de très solides atouts pour conserver son rayonnement au sens où je l'entendais tout à l'heure, c'est-à-dire de contact avec d'autres langues, de médiation avec d'autres langues. Mais pour ça, il faut à la fois faire de la langue française un élément d'une politique de souveraineté. Il faut qu'elle continue de jouer son rôle dans la construction toujours inachevée des identités nationales, mais il faut aussi défendre la communauté sans territoire du français, plus que le territoire des francophones, s'ouvrir aux autres communautés linguistiques par une grande politique de la traduction. Moi, je ne cesse de le répéter, mais Marie-Christine l'a mieux dit tout à l'heure que je ne puis le faire. Et puis, bien entendu, accentuer la présence du français sur les réseaux numériques en favorisant la constitution de bibliothèques, d'universités virtuelles. Et je crois que c'est à ce prix qu'en prenant appui sur la multipolarité de l'espace francophone, de ces centres du monde qui sont partout, qu'une politique du français ouverte sur le monde peut apporter une réponse positive aux questions posées par la mondialisation. Merci.
Ici se termine la première journée du 31e colloque international de l'Alliance française qui s'est tenu à Paris au Théâtre de l'Alliance française du 27 au 29 janvier 2009. Le lendemain, Valéry Giscard d'Estaing de l'Académie française a fait une allocution que nous vous invitons à écouter dans une autre émission sur Canal Académie.